Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Saint Marc, évangéliste, est fêté par l'Église le 25 avril. Parmi les évangélistes, il est au second rang, après saint Matthieu, et avant les saints Luc et Jean. Saint Marc ne fait pas partie des 12 apôtres. Il fut compagnon, tour à tour, de Paul et de Barnabé, ainsi que de Pierre, dont il aurait été le secrétaire. Nous allons voir tout cela avec mon invitée de ce jour, Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors c'est un feuillet illustré d'évangélière du XIe siècle, édité à Würzburg en Allemagne, et qui se trouve maintenant au Louvre, que vous avez choisi, et je m'adresse à vous, chers auditeurs, pour retrouver cette enluminure, vous pouvez taper Saint-Marc, feuillet d'évangélière Louvre, et vous pourrez accéder à l'œuvre que Jeanne va commenter pour nous. Alors Jeanne Tornel, pourquoi avez-vous choisi cette enluminure ?
Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Saint-Marc a le symbole du lion ? Pourquoi ? D'abord, il y a une petite raison affective à mon choix, c'est que mon mari s'appelle Alexandre Marc, donc Alexandre, Georges et Marc se sont trouvés très près et ont attiré mon choix. Alors pourquoi cette enluminure ? Parce que je crois que jusqu'à présent je n'en avais pas commenté. Et quand je choisis une œuvre, je fais dérouler quantité d'images sur le sujet jusqu'à ce que j'aie le coup de cœur. Et là j'ai eu le coup de cœur parce que il y a des couleurs, il y a des formes, il y a de l'émotion et il y a quantité de choses à dire sur cette enluminure. Il y a un travail merveilleux. Moi, j'admire beaucoup tous ces artistes qui ont la minutie, la patience de réaliser tout ça pour nous et pour ceux qui viennent ensuite, pour l'avenir, pour le futur, pour que ça reste et pour qu'on continue à s'émerveiller de tout ça des siècles et des siècles plus tard. Alors, ce Saint-Marc, c'est une feuille, effectivement, d'enluminure. Elle a illustré le début de l'évangile de Saint-Marc. Elle fait 27,8 cm de haut par 20 cm. Vous voyez, on est à peu près dans un 21-29-7, qu'on appelle ça brutalement maintenant. C'est une feuille à 4 classique au niveau de sa taille. C'est du parchemin, bien entendu. Et elle est peinte avec des couleurs, bien sûr, et avec des rayons d'or et d'argent. Il y a eu aussi des tracés qu'on perçoit qui ont été faits avec une règle et un stylet. Ça, moi, je ne les ai pas vus. Ce sont les spécialistes qui commentent ces œuvres qui l'ont signalé et je me permets de vous le transmettre. Cette image représente un saint au travail. Il est assis sur un siège, ma foi, qui a l'air très confortable. Il est au pupitre et il écrit sous la dictée d'un lion. Alors ce lion, il est le symbole de Saint-Marc. On représente, au lieu de représenter parfois les quatre évangélistes sous la forme humaine, on les représente par leur symbole qu'on appelle le tétramorphe. Quatre représentations. Et donc Saint-Marc est doté du lion, un lion ailé ou pas, mais pas toujours ailé. Et ce lion, pourquoi ? Parce que dans la Bible, il est dit que ce sera la voix de celui qu'on entend crier dans le désert. Et donc celui qu'on entend crier dans le désert, c'est le lion qui rugit avec une voix forte. Donc le lion est devenu l'apanage de Saint-Marc. Ce lion-là est au-dessus de Marc et lui dicte. Il est vraiment dans une attitude d'enseignant et Saint-Marc l'écoute avec attention et il prend sous sa dictée. Le lion sort des nuages. Il sort d'une nuée à la fois blanche et rouge. On retrouve encore le symbole divin, les couleurs divines, le blanc et le rouge. Donc, le lion transmet les paroles célestes, les paroles de Dieu. Il les transmet, il les enseigne à Saint-Marc, qui lui les relate, les écrit.
Oui, ce qui est frappant, ce sont les deux regards qui plongent l'un dans l'autre.
Mm-hmm.
Et ça, c'est magnifique pour l'avoir représenté dans cette enluminure.
Le lion est vraiment dans l'attitude de l'enseignant. Il est penché vers son élève, il a les sourcils froncés, il a la bouche ouverte, c'est vraiment très dynamique. Et Saint-Marc, lui, a les yeux grands ouverts, les sourcils levés, la bouche close, il l'écoute. Il l'écoute avec attention. Ces deux personnages sont positionnés dans un ensemble architectural. On a l'impression, tout d'un coup, de rentrer dans leur intimité, dans leur logement. Vous avez comme une pièce. Je vous expliquerai un peu pourquoi elle nous semble comme une semi-rotonde. Sur chaque côté, il y a de grandes colonnes. Ce sont des colonnes classiques d'inspiration grecque.
Corinthienne.
Avec des cannelures sur la colonne et des chapiteaux corinthiens avec des feuilles d'acanthe. Tout cela est doré. Et ces colonnes tiennent une voûte qui est... coloré aussi en or et en rouge. Et sur cette voûte, on voit des éléments d'architecture qui montrent bien le dessous de la toiture, les renforts et la toiture finale. Et prolongeant ces colonnes au-dessus de l'arc de toiture, vous avez comme deux églises qui sont représentées ou deux extensions,
oui, deux édicules
tours,
en forme de chapelle.
En forme de chapelle, surmontée d'un globe et d'une croix. Et sur le milieu, il y a un bâtiment circulaire qui est flanqué de deux petites tours, surmontées du globe et de la croix. On dirait une basilique au centre et de chaque côté des églises. On voit vraiment que ce sont des bâtiments religieux, c'est indéniable. Ce qu'il y a d'intéressant de remarquer, c'est que la construction des petits édicules latéraux est faite de grosses pierres, on dirait presque de nos jours des moellons, et ils sont surmontés de tuiles romaines. On voit très bien le détail de cette architecture. C'est la tuile qui est d'abord plate, puis bossue, puis plate, puis bossue, pour un écoulement des eaux. Mais ce que j'appelle la basilique au milieu a une construction tout à fait différente avec des briques ou des pierres qui sont beaucoup plus petites, qui sont... il y a un alternement.
Oui, une alternance.
Merci. Une alternance de briques et de pierres, on le voit dans les couleurs. On voit que c'est plus loin aussi, on voit qu'il y a une perspective. Et la couverture de ce bâtiment est faite soit de lauzes, soit d'ardoises. Il y a vraiment deux styles différents. On dirait à la fois un style byzantin pour le centre et un style plus européen de l'ouest pour les côtés. Ça représente peut-être aussi l'église universelle. Revenons à Saint-Marc. Saint-Marc est situé dans une pièce qui est entièrement peinte en bleu. C'est le ciel, c'est céleste. Saint-Marc va écrire les paroles divines et il a son auréole en doré, cerclée de rouge comme le lion. Ils sont vraiment les représentants de la volonté divine et des paroles divines. Et ce qui fait que ce ciel, en fait, n'est pas que sur le haut de la scène, il est aussi sur les côtés, mais aussi dessous. On le voit jusqu'au sol, bien qu'il y ait aussi une représentation terrestre avec des rinceaux, des plantes. On voit que Saint-Marc et son lion dominent la terre, ils sont au-dessus. Saint-Marc est assis sur on pourrait presque dire un trône, sur un tabouret qui est architecturé. Le symbole de tout ça, c'est qu'il est au-dessus de tout ce que peut construire l'homme sur Terre.
Voilà.
Une fois de plus, c'est céleste. Il est très confortablement assis car il a un très joli petit coussin derrière son dos qui est circulaire comme un traversin, un coussin long, qui est bleu avec un peu de rouge mais aussi des bordures dorées. C'est un environnement luxueux. Il a un repose-pied, ce qui fait que même ses pieds ne touchent pas terre et son repose-pied est également architecturé, comme s'il y avait des passages, des fenêtres, des arcatures. Il est dans la position du saint savant, c'est-à-dire qu'il est assis devant un pupitre. Le pupitre, c'est le symbole de l'enseignement aussi. Il y a une hiérarchie. D'abord, il y a Dieu qui a enseigné au lion. La nuée enseigne au lion. Le lion est au-dessus de saint Marc. Saint Marc est au-dessus de ce qu'il est en train d'écrire, qui est au-dessus de ce pupitre. Il y a vraiment une hiérarchie d'enseignement.
Dans une diagonale.
Dans une diagonale qui va d'en haut à droite jusqu'en bas à gauche.
Voilà.
Et nous, simples mortels, nous sommes tout en bas, tout petits, tout en bas à gauche. Ce pupitre est très amusant à regarder. Il a une réalisation, je mets au défi les ébénistes de bien vouloir réaliser ce pupitre qui a des pieds en feuilles d'acanthe, trois pieds.
Oui.
Et puis, son unique pied central est fait de bobines et de boules dorées, bleues et blanches, dorées, bleues et blanches, pour se partager en trois ou en cinq, c'est pas très précis, petits pieds qui vont aller jusqu'à chaque coin du plateau du pupitre et un au centre. Et puis il y a un plateau de ce pupitre. Sur le plateau, on voit un petit encrier et le livre qui est ouvert avec une page parcheminée qu'on aperçoit pour l'instant vierge. Et saint Marc a ses deux mains sur cette page. Il tient dans une main le calame, qui est encore un symbole de l'Antiquité. C'est pas une plume, mais dans les descriptions, il a très souvent une plume aussi. Et un étui dans l'autre main, dans la main gauche. Saint Marc est représenté devant une tenture qui est richement décorée. On voit la tringle et puis cette tenture très médiévale qui est plissée, qui a du mouvement. On voit les ombres. Cette tenture blanche est ornée de différentes croix, des croix à bourron, des croix à bout pointu. Et puis, il y a des clous de maintien aussi qu'on aperçoit de part et d'autre du saint. Ce saint est, je vous le disais tout à l'heure, probablement dans une pièce arrondie, une rotonde. On a cette impression par le mouvement qui est donné par la base de la tenture. Vous voyez la base de la tenture qui est avec un beau galon vert, frangé de rouge et de bleu. Cette base remonte légèrement et comme elle ne touche pas le sol, on a vraiment cette impression de profondeur et d'arrondi. On sent que le saint est protégé dans cet environnement par cet arrondi de tenture. Le saint, lui, porte une tunique qui est riche. Elle est blanche, bien entendu, mais elle a de très beaux galons autour du col et de beaux galons qui descendent jusqu'aux jambes et qui sont rouge et or. Ça peut symboliser son état de religieux.
De prêtre, oui.
De prêtre.
De la tribu des Lévis.
Et ça peut représenter l'étole aussi. Et cette étole, on le voit sous le manteau, dépasse jusqu'aux chevilles. Ce qui m'avait fait, par erreur, prendre au départ pour de la transparence de ses jambes à travers sa chemise. Mais la transparence n'était peut-être pas de mise à l'époque. Et on voit donc sa chemise à ses pieds qui passe sous le manteau. On voit ses sandales très fines, mais assez travaillées. Elles ne sont pas simplistes. On voit qu'il est en dehors du commun. Son manteau est ocre jaune, avec de très beaux galons, rouge et or aussi, qui le bordent. Il est vraiment dans cette attitude d'écoute. Il a la tête renversée vers l'arrière, comme si son maître était sur son épaule et qu'il se retournait pour être vraiment très attentif à son enseignement. Sa marque est représentée traditionnellement comme un homme relativement jeune, mais pas aussi jeune que Saint Jean. Saint Jean n'a pas de barbe. Saint Marc, lui, a une barbe, mais il a une barbe ronde, plutôt brune. On voit qu'il est bien moins âgé que Saint Pierre. Et il écoute, il a les yeux grands ouverts, des yeux bruns grands ouverts. Et puis ce petit lion, qui est ailé, qui a une belle crinière, des petites oreilles rondes, ce petit lion est allongé, cramponné, soit à une branche, là on n'a pas réussi à se déterminer.
Oui, c'est pas facile à voir.
Soit il est sur une branche, soit il tient dans ses pattes un phylactère. Ça, on va vous laisser juger. Ce petit lion, sous sa patte arrière gauche, a sa queue qui passe et qui monte devant lui. Et ce petit lion, on le retrouve dans trois positions différentes traditionnellement. Soit il est debout, de côté, avec la tête tournée vers nous, et on voit ses pattes, soit trois pattes, soit quatre pattes. Soit il est allongé comme il est là, représenté allongé de profil, avec ses ailes déployées. Soit on le retrouve de face, regardant de front celui ou ceux auxquels il s'adresse. Là, il est de profil et allongé. Cette scène est intime. On est vraiment dans un moment de la vie du saint où il est sous la dictée du lion, par la bouche du lion.
Le lion est très mignon. Il a un petit museau en trompette qui lui fait ressembler un peu à une souris, un peu.
Hein. Oui, ou un petit nounours. Oui, ou, ouais. On a beaucoup d'affection. Mais il n'a pas l'air commode.
Oui, il est ferme. Oui, oui. Dans ce qui est dans sa parole, oui, bien sûr.
Et ses petites ailes, c'est amusant, elles partent de ses épaules, ce qui lui donne un peu presque une attitude humaine. On s'imagine, en cachant ses pattes avant, on dirait comme une gargouille, avec des petites ailes posées par-dessus les épaules, avec un petit harnais.
Oui, il faut se rappeler que cette enluminure date du XIe siècle, c'est-à-dire les années de l'an 1000.
Oui.
Et ce n'est pas rien pour être si détaillée et si inspirante.
Et alors, j'ai juste une dernière chose à vous faire remarquer, c'est que quand vous regardez l'édicule qui est sur la gauche, vous remarquerez un repentir de celui qui a dessiné, peint, ouvragé, tout ça. Un repentir, c'est que il avait commencé un certain dessin et il a trouvé que ce n'était pas suffisamment bien et il l'a couvert par un autre dessin. Vous voyez en haut de la colonne, au bas de l'édicule, qu'il avait commencé à dessiner un bâtiment bas. On voit la forme du toit en triangle avec ce fronton et le toit qui part sur le côté. Mais il a trouvé que ce n'était pas assez bien pour ce sein ou alors que ça allait laisser beaucoup de place blanche. Donc il a monté ses chapelles comme des cheminées du château de Chambord et il a masqué, mais on perçoit encore, sans doute grâce au nettoyage et à la restauration de cette enluminure, on aperçoit ce repentir et c'est très intéressant. Une dernière chose, c'est que l'inscription Marcus date du 19e siècle.
D'accord. Donc là, on sait à qui on s'adresse.
Tout à fait.
Donc, Saint Marc va finir en Égypte. Il va être le premier évêque de l'Égypte, d'Alexandrie. Et il va mourir martyr, tiré par des bœufs, hein, plusieurs fois. Donc, voilà. Et c'est à Bucol, exactement, qui est un port de pêche proche d'Alexandrie. Voilà, eh bien, merci beaucoup, Jeanne Tornel, de nous avoir décrit en détail cette enluminure sur Saint-Marc, enluminure du XIe siècle. Merci, Manol, pour votre assistance technique. Merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Vous pouvez donc nous retrouver en podcast sur Radio Présence Cahors à la rubrique Les Arts Sacrés. Au revoir Jeanne et merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir à tous, à la semaine prochaine.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.